Un sale coup politique. Louis Mapou s'est exprimé pour la première fois depuis la chute du 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Vous l'entendrez dans ce journal. Encore une séance publique du Congrès pour le moins curieuse. Une séance qui a débuté hier avec près de 2h30 de retard. Le nouvel an sera plus sobre. Cette année, un couvre-feu est mis en place dans les communes du Grand Nouméa de 1h à 6h du matin. Une annonce qui impacte forcément les bars et les boîtes de nuit. L'actualité politique en métropole, Gérald Darmanin sur tous les fronts. Le nouveau garde des Sceaux multiplie les annonces. François Bayrou, lui, sera à Mayotte demain, accompagné de plusieurs ministres. À l'international, la Russie et l'Ukraine se renvoient la responsabilité du crash de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines, un crash qui a fait 38 morts. Les sports avec cette mauvaise nouvelle pour le ski français. Cyprien Sarrazin doit être opéré en urgence après sa lourde chute en Italie. C'était lors d'un entraînement. Et puis on termine avec l'événement sur le territoire du tennis, le BNC Open. Le tirage au sort des tableaux de simple et de double du tournoi de tennis aura lieu ce soir à 18h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend et on ouvre ce journal avec cette phrase. C'est un sale coup politique des propos tenus par Louis Mapou. Il s'exprimait hier pour la première fois depuis que le 17e gouvernement de la Nouvelle-Calédonie est tombé. Une longue explication de texte de Louis Mapou pour dénoncer la décision de Calédonie Ensemble de faire chuter le gouvernement et son timing. Jean-François Bodin.
Ce n'était pas encore l'heure du bilan de l'action du 17e gouvernement qui est resté en place 3 ans et demi, mais bien une intervention sur les raisons qui ont conduit à sa chute. Point par point, Louis Mapou a dénoncé les arguments mis en avant par Calédonie Ensemble pour justifier cette décision. Mais d'abord, il s'est interrogé sur le timing de l'annonce de la chute du gouvernement qu'il considère, vous l'avez dit Léo, comme un sale coup politique.
C'est un sale coup politique qui est porté à notre pays, comme si on avait besoin de ça. Chacun appréciera que la décision a été prise la veille de Noël, comme si le tempo ne valait rien en ces temps difficiles. Mais visiblement, il y a des ressentis de la part de certains responsables politiques qui font très peu cas de ce que peut psychologiquement ressentir la population dans des moments aussi importants que pour la Noël et la fin d'année.
Tout l'argumentaire de Louis Mapou, qui a commencé par remercier les membres du gouvernement, l'administration et les collaborateurs, c'est que justement ces équipes étaient pleinement mobilisées par les réponses à apporter à la crise générée par les émeutes et que le travail, selon lui, portait ses fruits, ce que certains ont eu du mal à accepter.
Nous, le gouvernement, on était au travail. Et je peux comprendre que les difficultés que la démarche qui a été proposée par Calédonie Ensemble et Philippe Gomez au Congrès n'ait pas rencontré le succès qu'ils souhaitaient. De là à dire que c'est la faute du gouvernement, il y a là un raccourci que je n'accepte pas. Les désiderata des uns et des autres relèvent plus de nostalgie par rapport à un passé qui a amené les uns et les autres à avoir une action déterminante de cette année.
Louis Mapou est convaincu que ceux qui sont responsables de la situation actuelle craignaient en fait de voir réussir ce premier gouvernement à majorité indépendantiste. Et il fait remonter le début des tensions lors du renouvellement du Congrès. C'est là que les choses ont changé, notamment dans les relations entre le Congrès et le gouvernement.
Depuis le changement de bureau au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, il y a une autre façon de travailler qui s'est installée. Et 9 élus, 3 de l'éveil océanien et 6 de Calédonie Ensemble, avec la caution. Je dis bien, la caution de certains responsables indépendantistes ont fini par faire croire que c'était suffisant pour dicter la vie des institutions de la Nouvelle-Calédonie.
Ce changement serait donc la cause des tensions entre le gouvernement et le Congrès, mais il y en a une autre, selon Louis Mapou, c'est la manière de se dédouaner de ce qui s'est passé le 13 mai.
Calédonie Ensemble et ceux qui sont alliés à lui considèrent que, parce que c'est la faute de l'État ce qui est arrivé, il faut qu'il paye. Est-ce que l'État est le seul responsable? Le député du Noyer était dans le groupe de Renaissance au moment où ça se passe. Ils ont soutenu le projet de loi constitutionnelle. Nous-mêmes, les indépendantistes, nous avons notre part de responsabilité. Quoi qu'on veuille ou quoi qu'on en dise. Parce que peut-être que si nous avions engagé des négociations beaucoup plus franchement que ce qu'on a fait entre le référendum de 2021 et la présentation d'un projet de loi, on n'en serait pas là.
L'un des reproches faits au gouvernement et à son président, c'est d'avoir été demandé et d'avoir obtenu de l'argent de la part de l'État. mais sous forme de prêts et non de subventions. Il n'y avait pas d'autre solution et Louis Mapou en veut d'ailleurs pour preuve que les deux missions transpartisanes qui ont été à Paris n'ont rien obtenu de plus.
Avec Denis Ensemble, qui est promoteur de la chute de gouvernement, mais avec qui on sent bien qu'il y a d'autres alliés, comme l'éveil océanien, dit qu'il espère toujours avoir l'accord du gouvernement central pour une subvention de 120 milliards. Ce serait la transformation du prêt garanti par le gouvernement central. Ni le président de la République, que la mission n'a jamais rencontré, ni le premier ministre Michel Barnier, que la mission n'a jamais rencontré, ni les présidents des deux chambres que j'ai reçus ici ne m'ont laissé entendre à un moment que dans le contexte des finances de la nation et du contexte politique en France, la demande d'une subvention de 500 milliards sur 5 ans était raisonnable, voire sensée.
Louis Mapou conteste donc toutes les raisons invoquées par Calédonie Ensemble pour justifier de la chute du gouvernement, estimant qu'il était au travail de façon concertée pour faire face à la crise et que ce travail commençait à porter ses fruits. Mais la chute du gouvernement aura des conséquences, estime-t-il, la première d'entre elles étant que la réforme de la TGC n'a pas été adoptée et qu'elle pourrait aboutir à ce que la France ne verse pas les 27 milliards d'aides prévues dans les prochains mois. Un gâchis, selon Louis Mapou, qui souligne que le sentiment qui l'anime, ce n'est ni le ressentiment, ni l'amertume.
Ah non, de la colère. De la colère de constater qu'on puisse encore faire ça.
Louis Mapou en colère contre la décision de Calédonie Ensemble, auquel il prête le soutien de l'éveil océanien. Je me demande comment on peut discuter de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie avec de tels agissements, a-t-il conclu.
Et l'actualité institutionnelle avec encore une séance publique du Congrès pour le moins curieuse, une séance qui a débuté, Lionel Sabot, avec près de 2h30 de retard hier.
Oui, si la Nouvelle-Calédonie n'était pas dans la situation économique et financière que l'on connaît aujourd'hui, après les émeutes du mois de mai, ce qui s'est passé au Congrès de la Nouvelle-Calédonie hier après-midi aurait presque pu prêter à sourire. Oui, mais eu égard à la situation économique du territoire, c'est un triste et inquiétant spectacle auquel nous avons assisté boulevard Vauban. Les élus étaient convoqués pour siéger à 14h, mais ce n'est qu'à 16h25, avec donc près de 2h30 de retard que la séance a été officiellement ouverte. Une séance qui s'est déroulée sans aucun élu indépendantiste, qui ont donc décidé de jouer la carte de la chaise vide après la chute du 17e gouvernement. Une absence qui a forcément eu des conséquences sur l'ordre du jour de la séance. En effet, le premier texte qui était à l'ordre du jour était un projet de loi du pays portant diverses mesures de soutien aux entreprises et aux salariés après les émeutes. Un texte présenté par le gouvernement et dont le rapporteur spécial était Caroline Machaud-Régnier. Mais en l'absence du rapporteur spécial d'un texte, il n'est pas possible de l'examiner en séance. Au final, ce texte étant supprimé de l'ordre du jour, c'est donc avec 2h30 de retard que les élus présents ont examiné le deuxième texte inscrit à l'ordre du jour, une proposition de loi du pays portant diverses mesures fiscales de soutien aux entreprises. Texte déposé par Calédonie Ensemble qui prévoit entre autres plusieurs exonérations d'impôts pour les entreprises. Philippe Dunoyer a défendu le texte, un texte qui a été largement amendé en séance.
D'abord, l'exonération des indemnités d'assurance, quand elles seront perçues, parce qu'elles sont un peu en retard. Et c'est très important que les entreprises bénéficiaires de cette indemnisation ne soient pas fiscalisées. Notre exonération, c'est sur les aides qui ont été versées au titre du mois de mai, de juin, de juillet, d'août, et qui continuent au titre du Fonds de solidarité de l'État. Celle-là aussi considère qu'il n'y a pas d'impôt à prendre sur ces aides, et notamment les petites structures, les artisans, les entrepreneurs individuels qui ont pu bénéficier de ces aides doivent pouvoir être exonérés d'impôts à ce titre. On fait abstraction d'un certain nombre d'impôts qui auraient dû, sans cette mesure, être demandés aux entreprises. Moi, je considère qu'il faut laisser les entreprises victimes des exactions libres de pouvoir utiliser, rebondir, relancer leur activité. Et donc, même si c'est au prix d'une moins-value fiscale, ce sera une mesure de soutien, je crois, très attendue par les acteurs économiques.
Et après 2 heures de débat, le texte a finalement été adopté par 28 voix pour. Un texte amendé, on le disait, ce qui a permis aux élus d'aller piocher, si l'on peut dire ainsi, certains articles du premier texte non examiné pour les intégrer dans le second texte. Gilles Brial pour l'intergroupe Les Loyalistes.
Personne n'a le monopole finalement des bonnes idées et par le regroupement des propositions faites par le gouvernement, des propositions faites par Calédonie Ensemble et des amendements que nous avons également portés, je pense qu'on permet de voter une loi de pays équilibrée, équilibré et qui est dans l'intérêt des entreprises calédoniennes et de leurs salariés. Ne jamais oublier les salariés, parce que l'objectif évidemment de la relance économique, c'est de pouvoir permettre aux entreprises de se redévelopper, de revivre et de réembaucher ces dizaines de milliers de Calédoniens qui se retrouvent dans des situations compliquées. Dans la situation particulière que vit la politique calédonienne actuellement, ça fait quand même du bien de voir qu'on arrive à regrouper ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres.
Le texte adopté hier par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie est un texte très technique qui va être une véritable bouffée d'oxygène pour les entreprises, mais aussi par ricochet pour les salariés de ces entreprises. Virginie Rufnec, la présidente du groupe Rassemblement au Congrès.
Simplement féliciter le travail des élus présents aujourd'hui qui ont réussi à combler l'absence d'un grand nombre d'élus, l'absence d'un rapporteur spécial sur une loi du pays du gouvernement que nous avons réussi à convertir en une autre loi du pays sur une proposition de texte qui avait été déposée par les collègues, et donc finalement être parvenu à avoir le sens de l'intérêt général pour mettre en œuvre ces dispositions très importantes à l'égard des entreprises, et notamment celles qui ont subi dans le cadre des exactions, de façon à leur permettre de passer ce cap difficile. Finalement, l'intérêt général a primé aujourd'hui dans un contexte assez difficile pour obtenir notamment un quorum.
Les élus du Congrès qui se retrouveront la semaine prochaine, boulevard Vauban. Si tout va bien, lundi à 13h30, ils devront examiner une proposition de délibération fixant le nombre de membres du prochain gouvernement. Après l'examen de ce texte, les élus devront notamment se prononcer sur un projet de loi du pays concernant les protections de marché.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 97% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'il faut sanctionner plus durement les élus qui tiennent des propos outranciers dans leurs assemblées respectives. Ils ne sont que 3% à estimer que ce n'est pas la peine. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Mathias Ouaneux, élu président de la province des Îles, il était le seul candidat lors de la séance qui avait pour objectif de renouveler le bureau de l'Assemblée. Après, on le rappelle que Jacques Lallier a été condamné à une peine d'inéligibilité de 2 ans. 13 voix sur 14 se sont donc portées sur sa candidature. Il avait mené la fronde contre Jacques Lallier lors de l'examen du précédent budget. Pour autant, il déclare poursuivre le travail entamé par son prédécesseur, même s'il critique la gouvernance que Jacques Lallier avait mise en place.
On sera dans les mêmes thématiques, sur les piliers que l'ancien président avait posés, mais on va prioriser les choses. Et puis on va remettre l'animation par rapport aux sujets qui sont transversaux, par rapport à l'animation des présidences de commission. La gouvernance, elle va changer. Elle va changer, on ne va plus opérer à la verticale. On va opérer avec une grande transparence possible par rapport aux sujets qui sont transversaux.
Neko Nepeun, qui a fait dernièrement son retour à l'Assemblée de la province des Îles, est élu premier vice-président, poste qui revient donc à l'UC. Le Palika prend la deuxième vice-présidence avec Wally Waitcha. Charles Yewene du groupe UC est le troisième vice-président. C'est donc l'ensemble de l'exécutif qui a été renouvelé. Le vote du budget primitif est prévu pour le 30 janvier.
RRB 7h13.
Le nouvel an sera plus sobre cette année. Le haut-commissariat a annoncé hier la mise en place d'un couvre-feu dans les communes du Grand Nouméa. Il sera en vigueur dans la nuit du 31 au 1er et du 1er au 2 janvier de 1h à 6h du matin. Cela ne concerne donc que les communes de Nouméa, d'Imbéa, Mont-d'Or et de Païta. Il s'agit, explique le haut-commissariat, d'observer une vigilance particulière en raison du contexte que connaît le territoire depuis plusieurs mois et également du bilan de l'insécurité routière ces dernières semaines. Tout contrevenant à ces mesures devra payer une amende de 16 000 francs. Une annonce qui impacte forcément les bars et les boîtes de nuit. Ils doivent s'adapter dans l'urgence alors que la nouvelle année arrive dans seulement quelques jours. Michael Juneski.
Oui, c'est un nouveau coup dur pour les professionnels de la nuit. Leurs plans sont chamboulés à moins d'une semaine de la fin d'année. Après plus de 7 mois passés sous couvre-feu, ils avaient prévu les choses en grand pour cette Saint-Sylvestre. Malheureusement, ils vont devoir s'adapter, comme l'explique Quentin, responsable du MV Lounge à la Baie des Citrons.
C'est vrai que par rapport à la soirée du Nouvel An, ça va être très compliqué de pouvoir fêter ça comme chaque année. On prévoit un spectacle avec la troupe de Torafi qui vient sur la plage pour un spectacle de feu et après le feu d'artifice à minuit. Donc là, avec cette annonce du couvre-feu à 1h, malheureusement, la fête va être entièrement écourtée. Je pense qu'on va devoir faire un peu comme avec le couvre-feu de ces dernières semaines, arrêter le service 1 heure avant et s'organiser du mieux qu'on peut pour nettoyer et s'en aller et que tout le monde rentre chez lui avant 1h. Ça va être compliqué. Ça nous impacte énormément et c'est vraiment dommage de devoir payer pour quelque chose qu'on n'a pas fait et qui n'est pas de notre ressort.
Et bien sûr, finir la soirée à 1h au lieu de 4h, c'est aussi un gros manque à gagner pour les bars et les boîtes de nuit. 3 heures de recettes en moins le soir du Nouvel An. Et puis, c'est aussi, comme l'explique Tom Huette, le responsable de la gestion des Trois Brasseurs, moins d'influence pour la soirée.
Le 31, oui, est une soirée assez importante dans l'année, puisque c'est l'affluence, c'est là où généralement on observe un certain attrait à cet événement de la part des consommateurs et des clients. C'est sûr, ça va vous impacter un petit peu au niveau de l'affluence et l'attrait que les personnes vont avoir à sortir éventuellement. Maintenant, nous, on sera quand même prêts pour accueillir et fêter le 31 comme il se doit. On s'adaptera.
Voilà, malgré tout, les établissements de nuit maintiennent tous leur programmation qui finiront donc tous un peu plus tôt.
Une information judiciaire ouverte par le parquet pour homicide volontaire sur ascendant le 24 décembre dernier. Un homme de 34 ans avait tué son père âgé de 62 ans. C'était à la tribu de Pama, à Poindimier, Lionel.
Dans un communiqué publié hier, Yves Dupas revient sur les faits. Le procureur de la République explique que le fils a tué son père d'un coup de sabre d'abattis au visage après une altercation. Lors de son audition, au cours de sa garde à vue, l'auteur présumé a reconnu le geste de violence. Il a expliqué que depuis plusieurs semaines, son père, alcoolisé, insistait pour lui faire boire de la colle alors qu'il savait qu'il n'en consommait pas. L'homme de 34 ans a ajouté qu'avant de porter le coup de sabre d'abattis, il s'est remémoré le comportement violent de son père à l'égard de sa mère décédée l'an dernier. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'auteur des faits a été soumis à un contrôle d'alcoolémie, contrôle qui s'est avéré négatif. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire.
Fait divers, toujours en métropole, une Calédonienne de 32 ans est morte noyée. Le jour de Noël, elle a perdu la vie dans un accident de la route à Vauvert dans le Gard. Son corps a été découvert à l'intérieur de sa voiture immergée dans un canal. La gendarmerie a ouvert une enquête et les investigations se poursuivent afin de déterminer la cause de sa sortie de route. Notez qu'une cagnotte litchi a été ouverte afin de permettre à ses proches de rapatrier son corps sur le caillou. 7h17, on marque une première pause dans ce journal. On reviendra juste après sur toute l'actualité nationale et internationale.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Mardi 31 décembre, c'est le réveillon du Nouvel An. Pensez à réserver votre table dans votre restaurant Pizza & Pasta au 24 30 70. Retrouvez les simulations spéciales Saint-Sylvestre sur la page Facebook Pizza & Pasta.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Léo Fichou.
Gérald Darmanin sur tous les fronts depuis son entrée en fonction il y a quelques jours. Le nouveau garde des Sceaux multiplie les annonces. Accélération de l'application des peines, multiplication des courts séjours en prison, encore allongement à 72 heures de la garde à vue dans les affaires de violences sexuelles. Gérald Darmanin souhaite également mener des opérations place nette dans les prisons. L'objectif, nettoyer les cellules de tout ce qui est interdit, drogue, armes, téléphones portables. Mais du côté de la prison de Nantes-Carquefou, le week-end avant Noël, ce sont près de 200 projections d'objets vers la cour du centre pénitentiaire qui ont été comptabilisées en quelques heures seulement. On écoute William Molinier pour Europe 1.
Oui, 197 précisément, des colis empaquetés et lancés au-dessus des grilles de la prison par des complices situés à l'extérieur. Tout cela se fait aux heures de promenade, sous le regard impuissant des surveillants situés dans les miradors. 197 projections à la veille de Noël, c'est un record, mais qui n'a pas surpris William Kozik, délégué local du syndicat FO pénitentiaire.
Surpris, non, comme habituellement, il y en a quand même 150 minimum dans le week-end. Mais là, sur une seule journée, ouais, je pense qu'on a dû battre un record. On arrive quand même à 207% de taux d'occupation, 250 matelas au sol. Donc il y a davantage de clients, entre guillemets, mais on est totalement démunis, comme on ne peut pas rentrer sur une cour de promenade avec 80 détenus pour récupérer les projections.
Et la nuit du 24 décembre, c'est même un drone qui a survolé l'établissement. Il s'est approché de la fenêtre d'une cellule d'un détenu particulièrement surveillé, un gros poisson nantais qui bénéficie de nombreux soutiens à l'extérieur de la prison. 100 grammes de drogue et un téléphone ont été retrouvés dans sa cellule depuis le début de l'année. 20 kilos de produits stupéfiants, 1200 téléphones et 62 armes ont été saisies dans les geôles de cette prison nantaise.
Mais la question que l'on se pose, est-ce que les promesses du nouveau garde des Sceaux sont réalisables ? Aura-t-il le budget nécessaire ? En déplacement en Picardie, Gérald Darmanin a réagi à ce sujet.
Je compte bien, effectivement, comme ministre de la Justice, pouvoir obtenir ces crédits supplémentaires, tout en comprenant évidemment les contraintes budgétaires nationales. Ce que nous voulons, c'est plus de rapidité, plus de fermeté. On ne peut pas le faire avec des moyens constants. Et donc, pour qu'il y ait plus de rapidité, plus de fermeté, il faut un peu plus de moyens.
Et le gouvernement qui veut en tout cas se montrer en action. François Bayrou a assisté à Liévin à une cérémonie commémorant les 50 ans du pire accident minier en France. Il avait fait, on le rappelle, 48 morts. C'était en 1974. Le Premier ministre qui sera demain et lundi à Mayotte pour poser les bases de la reconstruction de l'archipel dévasté. 5 ministres, dont Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, et Emmanuel Valls, ministre des Outre-mer, l'accompagneront. Le dernier bilan du cyclone Chido fait état de 39 morts et plus de 4000 blessés à Mayotte. L'actualité internationale, la Russie et l'Ukraine se renvoient la responsabilité du crash de l'avion de l'Azerbaïdjan Airlines. Un crash qui a fait 38 morts et l'hypothèse d'un missile antiaérien tiré par la Russie prend de l'ampleur. Volodymyr Zelensky appelle à une enquête approfondie. L'appareil civil allait atterrir mais s'est retrouvé dans un environnement de guerre électronique mortel. Nicolas Tonev d'Europe 1.
Oui, il faut imaginer la situation le jour du drame au-dessus de la capitale tchétchène. Des drones ukrainiens en approche pour les neutraliser. Un déchaînement de moyens électroniques, du brouillage spécifique dirigé vers ces drones, le brouillage des moyens de communication et des signaux GPS qui affectent du coup l'appareil d'Azerbaïdjan Airlines en approche. L'avion désorienté sort de la trajectoire prévue. Est-ce que cela trouble les tireurs russes ou l'Embraer 190 se retrouve-t-il sur la trajectoire d'un missile ? En tout cas, l'affaire finit tragiquement parce que Moscou laisse l'avion civil s'approcher de la zone de guerre, selon Xavier Tittelmann, spécialiste aéronautique militaire.
La difficulté, c'est que la Russie a laissé son espace aérien ouvert tout en sachant qu'il y avait des attaques sur son territoire. Et la Russie, aujourd'hui, c'est elle qui est coupable de ne pas avoir le sérieux aéronautique en émettant des interdictions de survol pour les avions civils.
Quand le missile antiaérien est lancé, il atteint immédiatement plus de 2000 km/h. Un avion civil ne peut pas manœuvrer assez vite pour l'éviter. Seule solution, ne pas se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Azerbaïdjan Airlines a tiré les conclusions du drame en décidant de suspendre ses vols vers 7 villes russes potentiellement dangereuses pour ses passagers.
C'était Nicolas Tonev d'Europe 1. Au Proche-Orient, notez qu'en Israël, un missile provenant du Yémen a visé ces dernières heures l'aéroport de Tel Aviv. Il a été intercepté par les systèmes de défense israéliens. L'État hébreu qui mène depuis hier une offensive d'envergure sur les positions des Houthis du Yémen. L'aéroport de Sanaa a notamment été visé. À 7h23, on tourne une dernière pause dans ce journal avant de faire le point sur toute l'actualité sportive de ce week-end.
Le quartier Alma est désormais ouvert tous les dimanches de 8h à 12h. En plus de vos enseignes favorites comme Decathlon, la Foire Fouille, Célio et bien d'autres, venez profiter d'un marché avec des animations, un manège pour les enfants et des stands divers et variés. Rendez-vous chaque dimanche matin au quartier Alma, votre destination shopping et détente. Quartier Alma, rue de l'Alma au centre-ville. Plus d'infos sur Facebook.
Vous rêvez d'espaces de rangement supplémentaires ? DCSM vous propose des placards et des dressings sur mesure adaptés à vos besoins.
Venez concevoir votre aménagement avec notre équipe, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
RRB, première radio d'information.
La suite des faux week-ends et c'est du sport, Léo Fichou.
Et à la une de l'actualité sportive, Michael Juneski, la lourde chute du skieur Cyprien Sarrazin. Le Français doit être opéré en urgence après avoir été blessé à l'entraînement en Italie.
Exactement, en marge de l'étape de la Coupe du Monde, une nouvelle difficile pour la Fédération Française. Cyprien Sarrazin, la révélation du ski tricolore, âgé de 30 ans, gravement touché donc à la suite de cette chute. Il est conscient mais souffre d'un hématome intracrânien après ce choc. Il est pris en charge au service réanimation réanimation neurologique d'un hôpital italien, certains participants ont déjà mis en avant l'état de la piste où se déroule ce week-end l'étape de la Coupe du Monde de ski alpin.
Sur les terrains de football, ça joue sur les pelouses du championnat anglais.
Oui, pas de trêve des conviseurs pour les fans de ballon rond britannique avec un marathon de rencontres. Et dès aujourd'hui, Arsenal, le quatrième du classement, qui reçoit l'équipe d'Ipswich, avant-dernier de Premier League. En cas de victoire, les Gunners reprendront la deuxième place du championnat anglais. Le coup d'envoi de la rencontre a été donné il y a quelques minutes seulement, à 7h15.
En rugby maintenant, on disputera la 13e journée du top 14.
Et pour ouvrir le bal, ce soir, un duel de bas de tableau, la section paloise 13e qui recevra Vannes, la lanterne rouge. Ensuite, l'aviron bayonnais accueillera le Castres olympique, Montpellier ira à Clermont et l'UBB, leader du classement, sera opposé à Toulon, 3e. Dans la nuit de dimanche à lundi, le Racing 92 affrontera le Loup, le Stade Rochelais ira à Perpignan et puis il y aura un duel de stadistes en clôture lundi matin, le Stade Toulousain contre le Stade Français.
De la voile maintenant, la lutte fait toujours rage en tête du Vendée Globe.
Johan Richomme et Charlie Dalin toujours au coude à coude, les deux navigateurs sont au large de l'Amérique du Sud dans la remontée de l'Atlantique en direction des Sables d'Olonne. Le suspense promet d'être au rendez-vous jusqu'au bout. Johan Richomme garde un léger avantage au dernier pointage. Nous en sommes à 47 jours de course dans ce tour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance.
Et dans le Pacifique, de la voile aussi, avec des Calédoniens engagés sur la Sydney Hobart.
Une course très difficile, notamment deux accidents qui ont coûté la vie à deux marins au large de la Nouvelle-Galles du Sud durant des manœuvres sur leur navire. Les conditions sont dures. L'équipage calédonien de Pulpito est toujours en lice actuellement au sud de l'île continent dans la traversée de la mer de Tasmanie, au milieu donc du reste de la flotte. Pulpito en 4e position au classement global, 3e dans la catégorie Sydney 38. Le skipper David Tréguier nous a fait part de son témoignage.
À bord de Pulpito MLS FCD sur la Sydney Hobart 2024, on peut dire que les 30 premières heures ont été très engagées, avec beaucoup de vent et surtout une mer très creuse, ce qui nous a valu quelques jolis surfs, mais aussi quelques problèmes techniques sans grandes conséquences qui ont été réparés. Mais on va dire qu'un engagement et une certaine fatigue s'est mis en place. Vous avez dû apprendre les deux décès à bord de la course. C'était pas un moment facile. On était juste à côté, donc on était en assistance VHF pendant que nous on avait également quelques problèmes à bord. Ça a été un moment compliqué où on était aussi dans une situation un peu sportive avec typiquement une personne qui a bu la tasse et son gilet qui s'est gonflé dans une manœuvre, tellement que l'eau a submergé le pont. C'était quand même pas quelque chose de très simple à vivre, mais on est focus sur l'objectif est d'arriver à Hobart et de réussir à prendre du plaisir. Normalement, le plus dur est derrière nous. Je dis normalement parce qu'il y a une différence réelle entre les fichiers météo et ce qu'on a sur le plan d'eau. Mais le gros du temps est passé. Donc là, on avance plein sud, direction de la Tasmanie. On a 24 heures assez rythmées et rapides avant de tomber dans une zone sans vent.
Voilà pour ce témoignage de David Tréguier, le skieur de Pulpito MLS SCD, actuellement 44e position au classement global, 3e dans la catégorie Sydney 38. Je rappelle que 8 Calédoniens sont à bord de Pulpito sur cette Sydney Hobart. Le premier navire, on le rappelle également, a déjà franchi la ligne d'arrivée. Le super maxi australien Low Connect, tenant du titre, a rallié Hobart en 1 jour, 13h et 35 minutes de course.
On a parlé des Calédoniens, parlons maintenant de l'événement sur le territoire. C'est du tennis avec le BNC Open qui démarre ce week-end.
Oui, les joueurs arrivent petit à petit à Nouméa et seront tous là pour les premiers matchs ce dimanche. Avant cela, place d'abord au tirage au sort du tableau de simple et de double. Il aura lieu ce soir à 18h au Méridien. Parmi les joueurs, on retrouvera Adrian Manarino, 66e mondial, triple vainqueur du tournoi calédonien, mais aussi Benoît Paire ou encore parmi les Calédoniens, Maxime Chazal et le très jeune Eremana Courte, 17 ans seulement.
Merci Mickaël pour toutes ces précisions sportives. On suivra bien évidemment ce BNC Open tout au long de la semaine. Place maintenant à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Et je le disais donc, place à la météo et les prévisions de ce samedi. C'est avec vous, Nicolas.
Elle est arrivée vite, cette météo. Alors ce matin, sur le nord-est, des nuages bas circuleront et des averses faibles seront encore possibles. Ailleurs, le temps sera sec et bien ensoleillé. Le vent d'est-sud-est soufflera entre 5 et 10 nœuds. Cet après-midi, sur la chaîne, les nuages se développeront et donneront des averses qui finiront par déborder sur le nord-est et la pointe nord. Ailleurs, le temps restera bien ensoleillé. Le vent de sud-est se renforcera légèrement autour de 10 nœuds, localement sur l'ouest, proche de 15 nœuds. Les températures maximales seront stables, de 28 à 30 degrés en général. Localement, de 30 à 32 degrés, ce sera sur l'ouest, Léo.
Merci Nicolas. 7h30, c'est donc la fin de ce journal. Rendez-vous à 8h pour le Flash. En attendant, place à l'interview d'Europe 1. Gauthier Lebrest reçoit Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat.